Éthique médicale et fin de vie, la maladie, la mort, la dignité.
Michel Cayol, médecin et chirurgien orthopédique, est également docteur en philosophie et formateur en éthique hospitalière. Il était récemment invité au Cine-Étoile de Digne de l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et c'est devant plus d'une soixantaine de personnes attentives qu'il a donné une conférence, éthique et fin de vie, traitant des questions sur l'humain, la maladie, la mort et bien sûr la dignité. Je vous propose d'écouter le docteur Cayol au micro d'Odile Frison, mais d'abord, nous entendrons Thierry, une personne du public, membre de Jalmalve, et qui a accepté de témoigner à l'issue de la conférence quand d'autres, plus réservés, n'ont pas souhaité s'exprimer.
Pris dans l'action et la vie, on a tendance à oublier tous ces questionnements et on voit que c'est quand même intéressant de se poser toutes ces questions. On ne peut pas tout automatiser, que ce soit par la loi ou par d'autres moyens.
Vous êtes venu parce que vous connaissiez Jalmalve.
Oui, je connais Jalmalve puisque je fais partie de l'association, mais même j'aime bien tout ce qui est philosophique aussi. C'est vrai que revenir un peu aux sources du langage, etc., rappeler les choses, tout ça c'est quand même important, je trouve. Et surtout de s'attacher à ce qui nous fait qu'on est humain, quoi. Parce que ça c'est aussi toujours des questionnements. Pour moi, c'est très important de se reposer ces questions, de prendre un temps de réflexion, effectivement, par rapport à tout ça, quoi. Surtout dans les conditions actuelles où on s'aperçoit qu'on est confronté à des gens qui font d'autres calculs que ceux de l'humain. Je me souviens même plus, c'est quand ça a démarré que je me suis souvenu que j'avais déjà fait cette conférence et je ne me suis pas ennuyé du tout. C'est un travail personnel aussi, hein. C'est surtout ça aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Les questions, donc effectivement, sur l'euthanasie, ça pose... Est-ce qu'on automatise ou pas? Parce que là, on est toujours... En fin de compte, on veut qu'on nous résolve tous nos problèmes alors que c'est à nous de les résoudre, quoi. Et ça, c'est le plus difficile, ouais. Voilà.
Docteur Michel Cayol, vous venez de faire une conférence sur éthique et fin de vie. La mort n'est plus vue de la même façon qu'il y a plusieurs siècles.
Voilà, de mon point de vue, hein, après, ça n'est qu'un point de vue. Mais les faits le montrent. On cherche à effacer la mort comme si c'était une saleté. D'ailleurs, les transhumanistes ont comme désir de nous débarrasser du problème de la mort. Comme si c'était un problème qui se rajoutait à notre vie. Alors qu'il fait, comme dit François Chang, la mort fait partie de notre vie. Donc il faut la craindre, et bien entendu, mais il faut l'accepter comme telle, puisqu'elle donne du sens à notre vie. Si nous n'étions pas dans la temporalité, ce que j'ai dit en plaisantant, on serait dans un monde de fous. Donc c'est à la fois dur, et en même temps, c'est salvateur. Et du coup, il faut entourer la mort non pas comme un problème, mais comme une réalité qu'on doit accompagner. C'est pour ça que les gens de Jalma vont, même leur mot est bien, accompagner la vie jusqu'à la mort, ou la mort jusqu'à la vie, peu importe. Mais ça veut dire que c'est l'accompagnement plutôt que la résolution du problème, parce qu'on ne peut pas résoudre ce problème.
Vous avez commencé cette conférence avec l'histoire de mots, justement, quand on souhaite une bonne santé aux gens, c'est pas positif?
Alors c'est positif, mais ça enferme les gens dans une norme dans laquelle personne ne peut vraiment rentrer, puisque la santé, ça ne veut rien dire, si ce n'est la définition que vous avez entendue de l'OMS, qui est complètement illusoire, hein, un état complet de bien-être physique, mental et social, alors qu'il n'y a aucune norme d'être au monde. Il faut simplement, dans ces conditions d'être au monde, moi paralysé, un cancéreux, un diabétique ou qui que vous voulez, il faut simplement lui permettre de continuer de pouvoir exister. Et c'est ça qui est fondamental. Alors quand on dit bonne année, bien entendu que ça part, c'est très bienveillant, mais quand on rajoute surtout bonne santé, ça veut dire si tu n'as pas la santé, tu es fichu. Ce que je conteste tout à fait, puisque la santé n'existe pas.
Et on peut être malade et pas malheureux pour autant?
Exactement, exactement. On peut être donc malade, hein, la définition que j'ai donnée c'est malhabitus, ne pas bien habiter le monde. On peut être d'après la médecine malade, un cancéreux, un diabétique, moi-même, etc., tout en étant, en habitant très bien le monde, donc en étant au sens étymologique absolument plus malade. Je suis absolument plus malade du tout, alors que je l'ai dit, mon bras est strictement le même qu'il y a 17 ans. C'est bizarre, hein, ça étonne tout le monde, moi le premier, mais c'est très vrai. Donc je me trouve en très bonne santé. Du point de vue des critères normatifs, biologiques, médicaux de la santé, je ne suis pas dans un état complet de bien-être physique.
Vous parliez de, maintenant c'est vrai qu'on maquille les morts, on s'en débarrasse rapidement, on déguise la mort. Ouais. Avant, on photographiait les morts, chose qu'on n'a plus le droit de faire. Enfin...
c'est vrai, les masques mortuaires, vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais alors quand il y avait la photo, mais au Moyen-Âge, on n'avait pas besoin de maquiller la mort, d'abord on n'avait pas de maquillage, le mort était un mort, il était ni laid ni pâlé, il était mort et il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, on en a tellement peur qu'on la déguise, pour dire non, il n'est pas mort, bien sûr qu'il est mort. Donc on l'a maquillé, on voudrait le rendre vivant, mais il n'est plus vivant. Comme si on n'acceptait pas ça. Et je répète, c'est le courant transhumaniste se branche là-dessus. Hein. On va supprimer la mort, rassurez-vous, la maladie et la mort.
même par rapport aux enfants, on cache la mort, on dit il est parti.
Vous avez raison, j'ai un ami qui a eu un gros trouble, j'ai toujours cet ami. À l'âge de 10 ans, son père est parti en voyage. Il a compris à 14 ans, 4 ans après, que son père était mort. Dans la famille, on lui avait raconté qu'il était en voyage. Donc il a une perturbation psychique majeure, c'est un type très bien. Mais pour vous dire qu'on fait du mal, alors il ne s'agit pas de dire la vérité nue et crue, mais annoncer que oui, mon propre petit-fils que je fais conduire à la campagne sur mes genoux, puisqu'il a 5 ans, et ça lui plaît, il m'a dit de manière limpide et spontanée, alors ta voiture me plaît beaucoup, j'ai dit ben oui, ben quand tu seras mort, tu me la donneras. Sous-entendu, ça ne va pas trop tarder. Mais ils ont raison, pour les enfants, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on en rajoute une couche. Je dis pas que c'est notre destin, mais on en rajoute une couche. Comme si on voulait la nier, on n'y arrive pas et ça rend malheureux. C'est comme les excès de la chirurgie dite esthétique qui voudraient me faire croire que je vais pas vieillir. Mais je vais vieillir quand même.
Vous avez parlé bien sûr de la loi Leonetti. C'est une loi qui a un peu évolué, c'est ça ?
Alors il y avait la loi Leonetti d'avril 2005 qui a été complétée par la loi dite Claeys. Donc la loi Leonetti, comme je l'ai dit, elle donne le cadre et ce qu'on... Les traitements sur lesquels on doit réfléchir pour ne pas tomber dans l'obstination. Et la loi Claeys rajoute des petites nuances importantes, mais surtout, elle introduit la sédation profonde et continue, qui est, je l'ai dit et je persiste, une anesthésie générale pendant que je suis en train de mourir. Pronostic vital engagé à court terme. Donc ça n'est absolument pas une euthanasie. Bien entendu que le malade va mourir, mais il ne meurt pas du tout de cette anesthésie. Il meurt de sa maladie qui est en train de le tuer.
Tous, on a beaucoup de questions à se poser puisqu'on est tous confrontés à la mort, aux personnes âgées, vieillissantes ou les EHPAD et les conditions de vie. Est-ce qu'on peut espérer que le personnel soit mieux formé aussi par rapport à l'éthique de la personne ?
Voilà.
J'ai entendu une personne âgée dans un EHPAD là, qui avait peut-être 95 ans ou qui disait « Là, vous me voyez comme une vieille dame, mais avant, j'étais quelqu'un, vous savez. »
Et elle est toujours quelqu'un. Ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la sensibilisation du personnel pour ce que vous venez de dire, réapprendre la dignité des personnes, etc. Donc, améliorer tout ça, c'est évident. Et puis, je crois qu'il y a presque un changement de paradigme. Je pense qu'il faut essayer de limiter au maximum les EHPAD tels qu'on les fait, comme si c'était des vieillardiums, pour essayer, autant qu'on peut, on ne pourra pas, évidemment, à 100%, introduire les personnes âgées dépendantes le plus possible dans la vie normale de la ville, de la bourgade, du village, en réservant par exemple un étage d'immeuble chaque fois qu'on en fait un, avec une aide à domicile pour qu'il y ait quelques personnes âgées, qui vont leur permettre de donner encore plus de sens à leur existence, puisque, comme je le revendique, il n'y a pas de situation où on ne puisse plus donner de sens à son existence, sauf si on n'a plus envie, il y a toujours 15% des gens qui ne sont pas contents de leur existence. Respect pour eux, mais globalement, à 85%, on peut toujours donner du sens à sa vie, y compris quand on va mourir.
Et oui, et le mot terrible des anciens qui nous disent « je suis inutile, je ne sers plus à rien », alors
horrible.
Que c'est
de
quand même...
De les culpabiliser comme ça, c'est horrible.
Oui.
C'est horrible, parce qu'on les culpabilise, et ce que je disais, je ne suis pas non plus apocalyptique, mais si en plus on leur dit « tu sais, on peut t'euthanasier », il y a de bonnes chances, ils disent « tu as raison, on va y aller ». Et c'est encore plus horrible.